Nous vous souhaitons une bonne écoute.
Lizzie présente Rien ne t'efface, de Michel Bussy. Lu par Antoine Doignon
et Léo Vaniro. Avec la participation de Marie Bouvet.
À Isabelle et Marie-Claude, et nos souvenirs d'Auvergne. Si j'avais coupé ses ailes, il serait à moi, et il ne serait pas parti. Oui, mais alors, il ne serait plus un oiseau, et moi, c'est l'oiseau que j'aimais. Choria Chori, Yoshean Artze. Traduction du basque par Michel Bussy. Le professeur Jan Stevenson, de l'université de St. Andrews, a étudié partout dans le monde des milliers de témoignages d'enfants prétendant se souvenir de leur réincarnation. Ses travaux ont permis de définir le modèle Stevenson, car les cas étudiés présentent d'étonnantes récurrences. Les changements de sexe sont rares, inférieurs à 5%. L'enfant commence à donner des informations sur sa vie antérieure à partir de 2 ans. Il s'arrête généralement vers 10 ans. Son décès, dans sa vie antérieure, est le plus souvent marqué par une mort violente et précoce. Les anomalies physiques, somatiques et psychiques sont alors fréquentes. Cicatrices, marques de naissance, phobies ou dons inexpliqués. Et il est sérieux, ce professeur Stevenson? Je veux dire, c'est un scientifique? Il a un laboratoire? Enfin, ce n'est pas du baratin, on peut le croire. Tu entends quoi par « on peut le croire » ? Eh bien, ce qu'il raconte, ces témoignages, c'est vrai ou pas ? Qu'est-ce qui, selon toi, permet de déterminer que quelque chose est vrai ou pas ? Je ne sais pas. Je suppose que si la majorité des gens pensent quelque chose, c'est que ça doit être plus vrai que faux. Alors, si on compte les hindouistes, les bouddhistes, mais aussi un quart des Européens et presque un tiers des Américains, une majorité de gens sur Terre croient à la réincarnation, sont persuadés que notre corps n'est qu'un vêtement et que notre âme lui survit. Et qu'elle en change dès qu'il est trop usé, c'est cela. C'est cela la réincarnation. L'âme est comme une puce qui saute d'un homme à un autre, ou d'un homme à un chien, d'un chien à un chat, puis d'un chat à un rat. C'est aussi simple que cela ? Non, ce n'est pas aussi simple. C'est au contraire un long voyage. Un voyage dont nous ne gardons aucun souvenir en général. Sauf quand cela se passe mal. Comment ça, quand ça se passe mal ? Premier âge. L'âme infantile. Laisse-moi t'expliquer, m'a dit. Ce n'est pas si compliqué. Les âmes infantiles sont les âmes qui commencent leur voyage. Elles découvrent la vie et la mort. Leur seul but à ce stade, c'est d'apprendre à survivre. 1. La disparition. Esteban.
Chapitre 1. Je suis quelqu'un de rationnel, farouchement indépendante, viscéralement libre, suffisamment riche. C'est ainsi qu'Esteban me voit, j'espère, du haut de ses 10 ans. C'est aussi l'image que je renvoie auprès de mes patients, je suppose. Docteur Madi Libéry, médecin généraliste au 29 boulevard Thiers à Saint-Jean-de-Luz. Fiable, forte, franche. Personne n'a à connaître mes failles, mes doutes ou mon jardin secret. Surtout pas mon fils. Mon appartement, au troisième étage de la rue Etchegaray, offre l'une des plus belles vues sur la grande plage, à 150 mètres à vol de tournepierre, l'oiseau de la côte basque, et 45 secondes chrono au petit trot. Pourquoi s'en priver? C'est notre rituel chaque matin avec Esteban, avant ma première consultation et qu'il ne file à l'école, avant même qu'on prenne ensemble le petit déjeuner. Nous nous habillons avec ce que nous trouvons au pied du lit et nous filons à la plage. Et dès qu'au printemps l'eau dépasse les 17 degrés, nous nageons. Toutes les rues de Saint-Jean-de-Luz mènent à l'océan, comme si la ville avait été construite pour qu'on puisse apercevoir un coin de vague depuis chaque balcon. Il est à peine 8 heures. La plage de Saint-Jean-de-Luz est presque déserte. Je compte moins d'une vingtaine de touristes éparpillés sur le long croissant, entre la digue aux chevaux et la digue du port. Nous nous sommes installés face à la terrasse du Toki Goshoa, le restaurant panoramique aux faïences multicolores. Enfin, « installé » est un grand mot. Esteban a laissé tomber sur le sable la serviette de plage rouge qu'il portait autour de son cou, façon cap de Superman, a fait passer par-dessus sa tête son sweat du Biarritz olympique et largué sur place ses deux espadrilles vertes. « On va se baigner, maman ?»« Une seconde, mon grand. » Réflexe professionnel. J'observe tout d'un œil vigilant. Esteban, d'abord. Son squelette de crevette, ses os saillants, ses clavicules trop fines, ses tibias qui dépassent d'un maillot trop grand, bleu indigo, de la même couleur que le ciel basque ce matin, décoré d'une petite baleine blanche imprimée sur la jambe gauche. Esteban est dans la juste moyenne pour son âge. Il passe à la pesée et la toise chaque samedi, après ma dernière consultation. Un autre de nos rituels. Il n'a le droit à son assiette de kebab hebdomadaire que si la courbe tracée au feutre rouge ne dévie pas de l'intervalle normal. « Alors, on y va, maman ?» Esteban attend avec impatience que je me déshabille. Pour sortir de l'appartement, j'ai enfilé une simple tunique en maille. Impossible de rater la couleur de mon bikini. Fuchsia lila. J'aime cette sensation de voile sur ma peau, de filet léger qui emprisonne mon ventre et libère mes jambes à mi-cuisse. J'aime me sentir encore désirable à presque 40 ans, et pas seulement dans le regard des retraités qui promènent leur caniche quai de l'infante. Je scrute l'océan. Au loin, en direction d'Andaï et de la plage de Sokoa, des surfeurs en combinaison noire, rangés tels une colonie de fourmis, affrontent les vagues. Derrière nous, le vent de l'Atlantique fait claquer les icouriniaques, les drapeaux basques, plantés le long de la jetée. « Non, pas aujourd'hui, mon grand. Il y a trop de vagues.
Quoi ?»
Esteban regarde la mer, incrédule. Les rouleaux sont hauts de plusieurs mètres. Il n'est pas bête. Il sait que se baigner est impossible dans ces conditions. Il insiste pourtant, presque pour la forme.
« Maman, c'est mon anniversaire aujourd'hui !»«
Je sais, alors. Qu'est-ce que ça change? On ne va pas se noyer parce que c'est le jour de ta naissance. » Esteban me sourit. De ce sourire irrésistible de petit prince qui ferait craquer n'importe quelle maman. Ses yeux clairs pétillent d'une minuscule tristesse, comme une égratignure du cœur. Je passe ma main dans ses cheveux blonds pour le consoler, pour les ébouriffer un peu aussi. Je l'adore ainsi, mon petit prince, mi-rêveur, mi-rebelle. Et je bénis chaque soir sur mon balcon quand Esteban dort d'un sommeil de bébé, l'astéroïde dont il est tombé. On se baignera demain, mon grand, ou ce soir, si je termine assez tôt. Il fait semblant de me croire. D'accord, maman. Il sait bien que ce n'est pas mon genre d'expédier mes patients. On se comprend sans avoir besoin de mettre les points sur les i, ni de les compter. Trois suffisent, alignés en suspension. Le reste est affaire de regard, de confiance, de complicité. Aucun homme ne pourra jamais se mettre entre nous. Je dois garder une place vide dans mon lit pour Esteban quand il me rejoint à l'aube. Jamais aucun amant ne pourra me réveiller un matin avec un « je t'aime » aussi cristallin. Je fouille rapidement dans mon sac et confie à Esteban une pièce de 1 euro. « Tu rapportes quand même une baguette ?» Encore l'un de nos rituels, instauré depuis qu'Esteban est entré en CM2 chez les grands. Après notre baignade du matin, il se sèche, enfile son sweat et court chercher le pain. Seul. 1 minute 35 chrono au grand galop. Ça lui laisse même le temps d'installer la table du petit déjeuner pendant que je termine ma douche. Confiture de cerises noires, yaourt au lait de brebis, jus de fruits pressé la veille. On déjeune ensemble, il prend sa douche pendant que je me maquille et on file tous les deux, main dans la main, moi à mon cabinet, lui à l'école. Esteban referme son poing sur la pièce de monnaie. Pourquoi ai-je été aussi pressée de rentrer ce matin-là? Sans baignade, nous avions tout le temps. Pourquoi me suis-je contentée d'épousseter quelques grains de sable sur son épaule, de faire glisser mon regard jusqu'au haut de son maillot, de contrôler par réflexe l'évolution de l'angiome sur son aine avant de le laisser? Pourquoi ne me suis-je pas retournée? Pourquoi n'ai-je pas vérifié qu'il ramassait sa serviette, qu'il enfilait son sweat, qu'il prenait la direction de la boulangerie par la rue de la Corderie? Parce qu'on invente les rituels pour cela, pour se rassurer, pour tout contrôler, pour se persuader qu'aucun accident ne peut arriver, parce qu'on se croit en sécurité en empruntant toujours le même trajet. On ne fait que baisser la garde en réalité, abaisser, par paresse, son niveau de vigilance, et fuir sa responsabilité.
Esteban ?
Je me contente de glisser la tête hors de la douche, tout en laissant l'eau brûlante couler sur ma peau. Le mur de la salle de bain, qui se résume à quelques éliges turquoises scellées autour d'un miroir de 2 mètres sur 3, me renvoie l'image de mon corps bronzé par les premières escapades de printemps, notre montée à pied jusqu'au sommet de la Rune, notre traversée en eau vive de la Nive, tes initiations maladroites au paddle sur le lac de Saint-Pé, au surf à Guétari, à la pelote basque sur le fronton d'Arkang. On a toute la vie, Esteban, pour devenir des champions.
Esteban !
Ma main cherche le robinet à tâtons, parvient à le fermer sans tout éclabousser. J'enroule mon corps trempé dans une serviette, dos au miroir. Je ferai plus tard l'inspection de mes imperfections.
Esteban, tu es rentré ?
Seul Patrick Cohen me répond. Il est 8h30 sur France Inter et le journaliste ouvre son journal en annonçant que l'équipe de France de football en Afrique du Sud a refusé de descendre du bus pour s'entraîner. Il ne se passe rien de plus important sur l'un des 5 continents. D'ailleurs, que fout Patrick Cohen dans mon salon ?
Esteban !
Chaque matin, dès qu'il rentre de la boulangerie, Esteban profite que je sois sous la douche pour changer de station. Fun, Sky, Energy ou plus souvent encore, coupe la radio et s'installe pour improviser quelques accords de guitare. Parfois, il griffonne sur des partitions ses compositions. Esteban est doué. Je suis certaine qu'il possède l'oreille absolue, même si je n'ai jamais pris le temps de le faire tester. Je sors de la salle de bain. Mes pieds inondent le parquet de peupliers, ce bois qu'il ne faut surtout pas laver, encore moins mouillé. La moindre goutte peut laisser une auréole à jamais. Je m'en fiche. Une angoisse sourde me saisit à la gorge. J'avance d'un pas de plus vers la cuisine ouverte avant de me statufier. L'empreinte de mes pieds s'imprimera à jamais sur les planches de bois brut. Je suis incapable de bouger, incapable de fixer autre chose que la table de la cuisine, vide, que la guitare sagement rangée sur son portant. Esteban n'est pas rentré. Je me retiens de crier. Je me persuade qu'il s'agit d'une blague. J'ouvre une à une les portes de nos deux chambres, de nos placards, des WC. Je me penche sous les lits. Je grimpe sur un tabouret pour regarder au-dessus de la penderie. Je manque de tomber, je m'en moque. J'ouvre à nouveau les portes de chaque meuble, du frigidaire, du four. Je commence à délirer. Mon cœur est proche d'exploser. Je sais reconnaître les débuts d'une crise d'angoisse. Ou peut-être, Esteban, aujourd'hui, le jour précis de son... J'ai soudain une idée. Je me précipite dans la salle de bain. J'ignore comment il a pu faire, mais Esteban est malin. Il a pu attendre que je sorte de la douche pour aller s'y cacher. Ou plus sûrement encore, y chercher ce que j'y ai caché. Je m'accroupis en retenant mon souffle. J'ouvre le meuble bas sous le lavabo. Il est là. Son cadeau d'anniversaire. Une guitare lyre, un instrument rare dont Esteban a rêvé tant de fois devant la vitrine d'Atlantique Guitare. Un son de rock électrique et une forme d'instrument antique. Esteban n'aurait jamais osé imaginer que sa maman pourrait lui... Je coupe net le fil de mes pensées. Esteban n'est pas là. Esteban n'a pas cherché à trouver son cadeau. Esteban n'est nulle part dans l'appartement. Esteban n'est pas rentré. Ça ne lui est jamais arrivé. Je consulte ma montre, les yeux troublés, à mon poignet tremblant. Je l'ai laissé il y a plus de 25 minutes maintenant. Il lui en faut moins de 3 pour se rendre à la boulangerie, payer et rentrer. Ma serviette tombe sans même que j'aie à la dénouer. J'enfile le premier bout de tissu que je trouve, un long t-shirt qui traîne au pied du lit, et je dévale les escaliers. Je traverse la rue Etchegaray, puis la rue Saint-Jacques. La plupart des commerces sont fermés, seuls quelques couples d'octogénaires se promènent dans les rues piétonnes. Je les croise sans qu'ils aient le temps de tourner la tête, à peine celui d'apercevoir la forme de mes fesses sous mon t-shirt trop court et de se demander s'ils n'ont pas rêvé. Je pousse à la volée la porte vitrée du fournil de Lamia et la retiens in extremis avant qu'elle ne vole en éclats.
« Vous n'avez pas vu mon fils ?»
Je ne prends pas le temps d'observer s'il y a d'autres clients. La boulangère fixe mon visage de fantôme épouvanté, trop surprise pour vérifier si je porte un suaire.
« Non, non, pas ce matin, Madame Libéry, mais... »
Je suis déjà repartie. La plage est à moins d'une minute. 40 secondes chrono, au galop, même dans mon état. Une grand-mère devant moi gare son chien, un grand-père range sa canne. Je parviens essoufflée au Toki Goshoa. Des touristes attablés prennent le petit déjeuner sur la vaste terrasse de bois qui domine la plage. Je continue, je vise un petit point rouge, droit devant. Ma cible. Mon espoir. À chaque foulée de ma course folle, des nuages de sable s'envolent, asphyxiant les rares touristes que je rase. Je m'arrête enfin. La cape de Superman est là, devant moi, étalée sur la plage, aussi chiffonnée que quand Esteban l'a laissée tomber, il y a près d'une demi-heure maintenant. Le sweat du Biarritz Olympique gît lui aussi à côté. Esteban ne l'a pas enfilé. Mon regard tente d'embrasser toute la plage, tout l'océan, de la digue aux chevaux jusqu'au rempart du fort de Sokoa, puis se fixe sur d'éventuelles traces dans le sable, devant moi, sous mes pieds, mais je ne distingue que des monticules ridicules que le vent a déjà déplacés 100 fois. Aucune trace d'Esteban. Les rouleaux géants de la mer déchaînée grondent devant moi, morts de la plage à défaut de pouvoir dévorer la ville. Je ne veux pas y croire. Je ne veux pas les regarder. Je veux me tourner vers les façades blanches des maisons, les colombages sang de bœuf tracés au carré, les jardinières fleuries sous les volets, les boutiques de spécialités alignées, les touristes fortunés, chercher un chien avec qui Esteban aurait pu vouloir jouer, une fille ou un garçon de son âge, le moindre château de sable, la moindre bouée, mais mes yeux sont aimantés par l'océan. Les rouleaux dépassent les 3 mètres maintenant. J'entends mes 10 mots de recommandation cogner dans ma tête. « Pas aujourd'hui, mon grand. Il y a trop de vagues. » Je les entendrai toute ma vie. Jamais, jamais Esteban ne m'aurait désobéi.